Monsieur le maire, cher Christian, merci de nous accueillir dans cette magnifique salle, agrémentée de parkings parfaitement accessibles. Pardon pour tous ceux qui n'ont pas pu se garer facilement, dont je fais partie. Mais néanmoins, merci. Ce village m'est cher, Christian le sait, puisque moi j'ai une grand-mère qui habitait ici. Je me souviens que tout gosse, je prenais le bus à Tarbes, pour Gambetta, grand bus rouge, et qui nous amenait, nous laissait le long de la rue, là-bas, de la route de Lourdes, et on venait à pied, là-bas, jusqu'à chez ma grand-mère. Toujours ce souvenir, donc Loye, pour moi, ça représente beaucoup de choses. Merci à toutes et à tous. Merci à tous les vice-présidents qui m'entourent, il en manque quelques-uns. Est-ce qu'il y a des vice-présidents dans la salle? Bon, tant pis, les autres sont excusés. Merci à tous les maires qui sont ici, à tous les conseillers communautaires, merci à tous les responsables de service, merci également à tous les agents qui ont pu se libérer ce matin. Je suis particulièrement sensible à votre présence, sachez-le. Je vais revenir dans un instant sur ce qui s'est passé au sein de notre communauté d'agglomération, au sein de notre territoire depuis un an, mais auparavant. Je ne peux pas évoquer en ce début d'année 1998, qui est une année de challenge, de défis qui nous sont proposés. J'ai dit quoi? Ah non, mais non, mais mon rêve, c'est d'avoir 20 ans de moins, je le dis tout le temps. Mais pourquoi vous me relevez? Non, je maintiens à 1998. Bon, au début de cette année 2018, je n'arrive pas à avoir les 20 ans en moins, même si dans la tête, je fais tout pour ça, il n'y a pas moyen. Donc, au début de cette année 2018, je voudrais vous dire, alors que nous avons des défis, des challenges très importants qui sont devant nous et que nous devons relever tous ensemble. C'est Yvette Lacaze qui me trouble, il faut que vous sachiez. Comme je l'ai pile en face, là, elle me trouble. Voilà, merci Yvette. Donc, je ne peux pas ne pas évoquer le contexte dans lequel nous allons nous engager en ce début d'année 2018, le contexte national. Le contexte départemental, je vous éviterai le contexte international, sinon il ne restera plus de temps pour parler de nous, pour parler de vous. Le contexte national, c'est un contexte qui semble s'annoncer sous de meilleurs auspices, avec une croissance qui repart, avec des perspectives économiques qui semblent être meilleures, avec des entreprises qui, on le sent, sont bien plus optimistes et envisagent d'investir et d'embaucher, avec, dans le même temps, vous le voyez, des réformes qui sont menées tambour battant, avec une détermination qui surprend et qui mérite d'être soulignée. Le contexte national, c'est aussi un contexte pour ce qui concerne les collectivités locales, qui est un contexte d'interrogation. On se demande quelles seront les dotations qui nous seront attribuées, que donneront les réformes fiscales engagées, notamment la réforme de la taxe d'habitation, même si nous sommes assurés en tout cas pour l'instant, d'une compensation à l'euro près. Donc normalement, on ne devrait pas avoir d'inquiétude, mais vous savez, chaque fois qu'il y a et des transferts de charges ou des diminutions de recettes compensées, il y a toujours des conséquences financières négatives pour ceux qui sont concernés. Donc on peut s'interroger et craindre le pire. Dans ce contexte national, il y a aussi un point avec lequel nous sommes entretenus avec Jean-Louis Réveillé, qui nous préoccupe et dont on a peu parlé. C'est l'évolution de l'endettement public entre 2018 et 2022, tel qu'il a été défini dans la loi de finances pour 2018. C'est étrange qu'on n'en parle pas beaucoup. Quelle est l'évolution de l'endettement public qui est inscrit dans la loi de finances? Ça veut dire que c'est une obligation qui va s'imposer. Ça va être une diminution des déficits sociaux et donc de la sécurité sociale et des hôpitaux de 98 milliards d'euros sur les 5 ans qui viennent. une diminution de la dette des collectivités locales de 54 milliards d'euros et une augmentation de la dette de l'État de 347 milliards. Au total, ça fait une augmentation de la dette de pas loin de 200 milliards, 195 exactement. Il est évident que cette diminution de la dette, pour ce qui nous concerne, la dette des collectivités territoriales, si on nous impose de diminuer la dette, ça veut dire qu'on devra diminuer l'investissement et donc l'emploi, ou qu'on devra diminuer les dépenses de fonctionnement pour dégager davantage d'autofinancement, pour emprunter moins si on veut investir autant. Voilà le contexte qu'on ne peut pas ne pas évoquer. Ça va être compliqué pour nous. Vous savez, nous avons voté notre budget, j'y reviendrai dans un instant, avec des ambitions en matière d'investissement, avec le souci de ne pas augmenter les impôts. Parce que si on veut augmenter l'autofinancement parce qu'on n'arrive pas à diminuer les dépenses de fonctionnement, eh bien, il ne reste plus qu'à augmenter les impôts, si on veut ne pas augmenter la dette. Et voilà l'équation, ou les équations qui sont devant nous. Le contexte local, on ne peut pas l'ignorer. Nous sommes aujourd'hui une communauté d'agglomération qui fait un peu plus de la moitié du département, mais nous faisons partie de ce département auquel nous sommes très attachés. Je salue les conseillers départementaux qui sont ici ce soir, cet après-midi, ce midi. Donc je les salue. Le contexte départemental, il nous interpelle, il nous concerne. Il y a un projet de territoire qui est engagé par le département depuis 2-3 ans maintenant, auquel nous participons. Moi-même, avec Chantal Rodrigo, nous sommes chargés de la coordination des projets. C'est très bien de coordonner les projets, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir des projets à coordonner. Et c'est un peu plus compliqué. Alors, la coordination, elle peut se faire, à condition qu'il y ait des projets. Mais bon. Ce contexte départemental, bien évidemment, nous inscrivons totalement. Et les dynamiques que nous voulons insuffler sur notre territoire d'agglomération, bien évidemment, notre objectif, c'est aussi qu'elles contribuent à la dynamisation de l'ensemble de notre département. Il y a le national, il y a notre département, et puis il y a le Béarn à côté. Il y a la communauté d'agglomération de Pau. J'ai été interviewé ce matin par Radio France Bleu, par la République des Pyrénées entière, sur des sujets que j'ai évoqués et qui me paraît difficile de ne pas les évoquer. Est-ce que nous pouvons ignorer ce qui se passe à côté de chez nous quand on a un aéroport quasiment commun, à 40 km près, que nous avons aujourd'hui des interrogations sérieuses sur l'évolution des destinations au départ de Tarbes-Lot? Je pense notamment à la destination Paris, où elle est Josette. Ne te mets pas derrière moi, personne ne te voit alors. Donc, on peut s'interroger le devenir de ces lignes qui contribuent quand même au développement économique de notre département. Que va devenir la ligne Tarbes-Lot de Paris? Est-ce que nous allons être capables de continuer à développer les destinations vers les capitales européennes pour faire venir davantage de touristes et de pèlerins sur notre territoire, alors qu'on nous demande toujours plus et qu'il y a des demandes qui sont aujourd'hui tellement exorbitantes qu'elles paraissent difficiles à honorer? Le département et l'agglomération paloise, c'est pas que l'aéroport de Pau. C'est une nécessité absolue, absolue, de se donner la main. Nous sommes au cœur d'un triangle, au cœur de ce triangle. Et dans ce triangle, il y a une force d'attraction qui est celle de la métropole bordelaise, du Pays Basque d'un côté, et de la métropole toulousaine, qui tire les dynamiques vers ces métropoles. Et dont bénéficient bien évidemment les villes et les communautés comparables à la nôtre, proches de ces communautés urbaines. Mais nous, au milieu, on est trop loin, ne pouvons pas bénéficier de la dynamique toulousaine comme Montauban, comme Albi maintenant, comme Auch demain. Nous, nous sommes trop loin. Est-ce que Pau va pouvoir bénéficier de la dynamique bordelaise? Bien sûr que non, ils sont à près de 200 km. Est-ce qu'ils peuvent bénéficier de la dynamique du Pays Basque, qui est évidente également? Non plus. Donc nous sommes contraints de nous regarder, de nous donner la main et d'imaginer ensemble des projets communs. Et le premier projet sur lequel nous devrions réfléchir, c'est celui de la façon dont nous allons porter nos territoires respectifs, notre territoire, car c'est le même, nous avons un lien commun, c'est la chaîne des Pyrénées. Comment allons-nous pouvoir porter demain ce territoire qui, vu de Pékin, de Singapour, de Tokyo ou d'ailleurs, quand on regarde la carte du monde, Tarbes, Lourdes, Pau, mais c'est au même endroit. Comment allons-nous pouvoir porter ce territoire si on n'est pas capable de créer ensemble une agence de développement économique, de développement de notre territoire? C'est la proposition que j'ai faite. J'ai appris que le président de la communauté d'agglomération paloise avait une priorité. Et j'ai la même. C'était de développer d'abord le pays de Béarn. Et moi, j'ai la même avec vous tous. C'est de développer d'abord notre agglomération. Mais ça n'empêche pas de commencer à réfléchir, à travailler ensemble sur la construction d'un avenir commun. Sinon, je vous l'annonce, dans les 10, 15, 20 années qui viennent, ce sera le désert au centre de ce triangle que je viens d'évoquer. Voilà le contexte national, local, et bien évidemment, je ne peux pas non plus, revenant sur le contexte local, malgré les remarques d'optimisme que j'ai évoquées en début de mon propos, je ne peux pas évoquer les entreprises sur notre territoire qui ont des difficultés malgré tout. Il y a des entreprises qui ont des objectifs de développement, on est là pour les aider, pour les accompagner, et ça marche pas mal, mais il y a des entreprises qui ont des difficultés. Et là aussi, il faut qu'on trouve les moyens de les aider. Je pense à Vallourec, l'entreprise Vallourec, aujourd'hui, avec 57 personnes qui risquent, dans les mois qui viennent, de se retrouver sur le carreau. Tout n'est pas rose, tout n'est pas joyeux pour l'avenir. Nous sommes obligés de regarder ce qui se passe autour de nous et penser à ces personnes qui s'interrogent sur leur avenir quasi immédiat. J'ai connu, au début des années 2000, la déprise, le départ de Jet Industries, avec des centaines de personnes qu'il a fallu reclasser. Et nous sommes tous engagés, les acteurs publics, départements, villes, hôpitaux, etc., nous sommes tous engagés. On a réussi à faire de la place à certains des anciens de GIAT, l'armée, etc. Est-ce que là, on trouvera des solutions avec Nexter pour une partie du personnel? Et est-ce qu'on aura d'autres solutions? C'est une interrogation réelle et sérieuse. Donc, vous le voyez, on a des motifs d'être optimiste, mais on a aussi des motifs d'être réaliste, sérieux et parfois un peu morose. Maintenant, je voudrais revenir sur notre agglomération. Il y a tout juste un an, à quelques semaines près, quelques jours près, qu'elle a été créée avec vous tous. Je m'adresse à tous les élus qui sont ici, tous les conseillers communautaires. Regardons ce qui s'est fait en un an. Il y a un travail considérable qui a été accompli. Et ce travail, nous l'avons fait, nous ensemble, les élus, mais avec vous tous, avec chacun d'entre vous. Et je voudrais vous dire toute notre reconnaissance, la reconnaissance des élus à l'adresse de l'ensemble des personnels, de ceux qui sont ici et de ceux qui ne sont pas ici, aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas pu venir ou parce qu'ils sont en congé. Je voudrais leur dire toute notre reconnaissance pour leur engagement. Ce n'était pas évident du tout. Qui croyait à l'avenir de cette nouvelle agglomération, en dehors des communautés antérieures qui avaient clairement affiché leur hostilité, mais qui, au sein des personnels, au sein des élus, même de ceux qui l'ont accompagné, croyaient qu'il était possible de faire quelque chose qui puisse se tenir, qui puisse avoir quelque part une présence sur la cartographie des communautés d'agglomération de notre région Occitanie. Nous sommes la cinquième communauté d'agglomération de notre région. Nous avons un devoir, c'est d'abord d'avoir une existence remarquée, sinon remarquable, un devoir d'exister, et un devoir de démontrer que nous sommes capables d'apporter du dynamisme à notre territoire, aux entreprises de notre territoire. Alors, à Nonant, je vais rappeler très vite ce qui a été fait. Ce n'était pas évident du tout. On a réussi à mettre en place une gouvernance au niveau des élus, avec une conférence des vice-présidents, un bureau de 53 membres et un conseil communautaire de 133 membres. Vous savez, ça paraissait pas évident au début de travailler, de prendre des décisions à 53 au sein d'un bureau, qui est l'exécutif, de prendre les grandes décisions, le budget, etc., au sein d'un conseil communautaire de 133 membres, de voter, d'imaginer, de voter un projet d'agglomération au sein d'un conseil communautaire de 133 membres. Donc, la gouvernance est mise en place. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui y ont participé. Cette gouvernance, elle s'est faite sur la base de principes fondamentaux, que je veux encore une fois évoquer de nouveau, avec un esprit particulier. Premier élément de cet esprit, le respect. Le respect des sensibilités, le respect des territoires, le respect également eh bien, des ambitions respectives de chacune et de chacun. Qui peut le dire aujourd'hui, que depuis un an, commune urbaine, commune rurale, qui peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas été respecté, qu'il n'a pas été entendu, qu'il n'a pas été écouté, qu'il n'a pas été rencontré, qu'on n'est pas allé les voir, les uns, les autres, chacune, chacun, pour leur présenter le budget, le projet de territoire, le pacte de gouvernance, le pacte fiscal et financier, etc. Nous sommes allés sur le territoire présenter tout cela. Donc, cette gouvernance s'est faite dans cet esprit, avec le respect, les respects que je viens d'évoquer. Et tout cela a été la mise en œuvre des véritables actions fondatrices de notre agglomération. On aurait pu faire différemment. On peut garder en réponse, c'est comme ci, comme ça ne vous plaît pas, c'est pareil, il y a une majorité, il y a une minorité. Non. Non. Et quand je dis, j'ai encore dit à la presse, c'est pas longtemps, hein, ça se voit aujourd'hui d'ailleurs, que les idéologies, c'est une chose, il faut les respecter, mais quand il s'agit de défendre un pays, un territoire, autre chose. Et moi, dès 2008, j'ai partagé les responsabilités au sein du Grand Arbre avec tout le monde. Je n'ai pas regardé qui était de gauche, qui était de droite. Ce qui compte, ce sont les compétences et les volontés, la détermination des uns et des autres. Et nous avons fait la même chose ici, dans l'installation de nos instances de gouvernance. Donc je vous remercie toutes et tous d'y avoir participé, comme je remercie bien évidemment le directeur général des services, le directeur général adjoint, tous les directeurs de services, les responsables de services, pour leur contribution à la mise en œuvre d'un nouvel organigramme. Ce n'est pas non plus facile de construire un nouvel organigramme compte tenu d'une agglomération avec trois sites différents, avec des compétences qui sont totalement différentes, qui ne sont pas nécessairement liées les unes aux autres, avec malheureusement parfois la nécessité de déplacer des personnes d'un lieu à un autre. Ce n'est pas toujours facile, on le sait. Et je voudrais remercier celles et ceux qui ont accepté ces contraintes, qui les ont acceptées. Sachez que tout ça ne s'est pas fait sans qu'on s'aperçoive des efforts qui avaient été faits. Ça n'a pas été inaperçu. Croyez-le. Voulez-vous le redire une autre fois? Ensuite, nous avons mis en œuvre, d'abord au mois de juin, un document qui s'appelait Partager, protéger, je crois. C'était la présentation de l'esprit de ce que nous voulions faire. C'était ce que j'appelais les orientations fondamentales de notre agglomération. Protéger, bâtir, protéger, construire. Et le faire ensemble. Depuis le mois de novembre, puis fin novembre, nous possédons maintenant une véritable feuille de route. Je ne dis pas que cette feuille de route, elle est tracée d'un trait comme ça et qu'on ne pourra pas parfois prendre des chemins de traverse pour atteindre des objectifs qu'on s'est fixés. Elle est, cette feuille de route, amendable. Elle est amendable par chacun des élus, elle est amendable par chacun des personnels qui sont ici. Et je voudrais leur dire, à tous les personnels qui sont ici, que maintenant que la feuille de route a été adoptée à l'unanimité, c'est-à-dire qu'on va lancer les études, sur les grands projets que nous avons présentés et qui ont été adoptés à l'unanimité par le Conseil communautaire. On va lancer des études de faisabilité, d'opportunité, de financement. Et après ces études, bien, en fonction des résultats, nous mettrons en œuvre les investissements qui apporteront dynamique et développement à nos territoires. Je voudrais dire à l'ensemble du personnel que maintenant que la feuille de route est tracée, que les fêtes sont passées, que les vœux seront passés, qu'à partir du mois de février, je verrai avec M. Réveillé, avec M. Boucheron et avec bien évidemment mes vice-présidents, je verrai comment nous allons pouvoir nous rendre sur le terrain, comme on l'a fait pour construire tous les projets dont j'évoquais, que j'évoquais à l'instant, le budget, etc. Nous irons sur le terrain à la rencontre des personnels. Parce que nous avons besoin de vous écouter. Nous avons besoin de vous entendre. Parce que vous avez le droit d'avoir des idées qui vont peut-être demain venir amender cette feuille de route que je viens d'évoquer. Et donc, on viendra à votre rencontre et vous nous direz ce que vous pensez de tout ce qui s'est passé depuis un an. Vous pourrez nous dire ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu. Et comment nous pourrons éventuellement, si c'est le cas, apporter toutes les améliorations nécessaires. Parce que je suis convaincu que rien n'étant jamais parfait, il y aura des propositions positives qui nous seront faites. Vous l'avez compris, nous travaillons depuis un an maintenant avec comme principe de base l'écoute, le dialogue, le respect de l'autre, je l'ai déjà dit, mais j'insiste de nouveau. On a écouté les élus sur chaque pôle. Maintenant, on va aussi écouter ceux qui vont nous accompagner pour la mise en œuvre de notre feuille de route, de notre projet d'agglomération. Chacun a son rôle à jouer, chacun a son niveau d'expertise. L'élu, le responsable de service, comme l'agent, à quelques niveaux qu'il se trouve, chacun a son niveau d'expertise et peut avoir ses idées qui peuvent être intéressantes. Car je considère que nous formons une équipe. Et cette équipe, elle est ici. Il en manque, mais elle est ici. Il manque des élus, il manque enfin, mais cette équipe, elle est composée d'élus, elle est composée de responsables de services, elle est composée de l'ensemble du personnel. Et c'est cette équipe que je veux animer, et je veux en faire une équipe gagnante. Je veux que ce soit une équipe gagnante, que les projets qu'on a imaginés, nous puissions les mener, les réaliser ensemble. Je voudrais que vous ayez bien compris une chose, c'est que on sait ce que l'on veut, on sait ce qu'on veut faire, et on sait qu'on ne pourra pas le faire seul. Voilà. Donc nous avons en même temps la détermination et la volonté, mais en même temps l'humilité qui consiste à dire on sait très bien qu'on a besoin des uns des autres. Et qu'au sein de cette équipe, chacun a droit à la parole. Je voudrais rappeler le travail considérable qui a été accompli au cours des dernières années, de l'année dernière. C'est plus de 90 réunions qui ont été organisées. Il y a eu. Alors, je suis obligé de mettre des papiers, excusez-moi. Parce que je trouve que ça fait mieux d'abord. Alors, bureau communautaire, il y a eu 8 réunions durant l'année 2017 du bureau communautaire. Conseil communautaire, 7 réunions. Conférence des vice-présidents, 10 réunions. Il y a eu plus de 90 réunions des commissions, de toutes les commissions. Et je voudrais remercier les présidents de commission, tous les animateurs, les responsables de services qui assistent, les vice-présidents chargés de compétences spécifiques sur ces commissions. Avec les commissions qui se sont réunies parfois 8 fois, d'en citer quelques-unes, 6 fois. La commission développement économique, je viens de préciser, 6 fois, je donnerai quelques éléments sur son contenu. La commission ressources humaines, 7 fois. La commission équipement culturel, 6 fois. Les fonds de concours, Jacques, 5 fois. La commission environnement, 8 fois. Enfin, je pourrais reprendre sur l'ensemble des commissions. Il y a eu un nombre important de réunions, avec chaque fois des comptes rendus qui ont été adressés à tout le monde, compte rendu de toutes ces réunions, plus de 90 réunions, 95, a été adressé à tous les élus. Et s'il y a des élus qui considèrent aujourd'hui qu'ils ne sont pas informés sur ce qui se passe au sein de la communauté d'agglomération, je me dis qu'il faudra qu'ils prennent un peu de temps sur leur organisation de vie pour lire un peu quelques comptes rendus sur les sujets qui les intéressent. En tout cas, personne ne pourra dire qu'il n'est pas informé. En tout cas, notre souci, Jean-Luc, avec les vice-présidents, c'est de donner l'information la plus parfaite et la plus complète possible. Ce travail considérable, je tiens à remercier et à féliciter tous les présidents de commission, tous les responsables de délégation pour ce travail extraordinaire qui a été accompli. Je voudrais donner une idée, parce que notre souci majeur, c'est le développement économique. Je voudrais vous donner une idée sur ce que nous avons fait au sein de la commission développement économique et les 6 réunions qui ont été organisées en 2017. On a réalisé le schéma des zones d'activité, avec positionnement, définition de stratégie, requalification, redénomination. On a travaillé sur les friches également. A été élaboré le règlement d'intervention des aides à l'immobilier d'entreprise, un audit sur l'économie circulaire, le comité d'accompagnement partenarial a été mis en place, on a édité un guide de la recherche qui est tout à fait remarquable, on a assuré les transferts des zones d'activité économique des anciennes communautés vers la nôtre, ça n'a pas été toujours simple, notamment à Tarbes, je suis obligé de le dire, mais ça a été fait. Le programme de requalification des zones par différents niveaux a été effectué. La commercialisation des zones a été réalisée avec un objectif. J'avais assigné à M. Anglo un objectif de 1,5 million de ventes de terrain sur nos zones d'activité. Il m'a présenté le bilan de tous les actes que j'avais signés. Les ventes ont été faites. Pour arriver à 1,5 million, il manque 677 euros. Alors il m'a envoyé un message, M. le Président, je m'excuse, il me manque 677 euros. Je l'ai félicité quand même, je lui ai dit, c'est pas grave, ils seront retenus sur ton prochain salaire. C'est pas vrai, hein, ne croyez pas que c'est vrai. Hein. Mais en tout cas, un objectif qui a été atteint, là aussi, tout à fait remarquable. Et l'objectif pour les sessions sur les zones d'activité de 2018, je peux d'ores et déjà le fixer. Il va être entre 1,7 million et 2 millions d'euros. L'objectif, tu le prends, entre 1,7 million et 2 millions de ventes pour 2018, avec d'autres objectifs sur toujours le développement économique. Nous allons lancer un concours de start-up national. Parce qu'on s'aperçoit que quand on a fait, par exemple, on a participé avec Crescendo, et je salue le dynamisme de Crescendo, et tout ce qui se fait avec les Chindo, la French Tech, etc. Quand a été organisé la Kinaton il y a quelques semaines, eh bien, après la Kinaton, eh bien, il y a quatre projets d'entreprise, de start-up, qui sont actuellement à l'étude et en cours de réalisation. Demain, en faisant venir des porteurs de projets du national, qui participeront au concours national de start-up avec des dotations qui sont significatives, 30 000 euros pour celui qui présentera le meilleur projet. Bien évidemment, on va essayer de faire en sorte que ces projets se réalisent ici, chez nous. C'est comme ça que progressivement, on va réussir à faire venir des entreprises nouvelles. Hier, j'ai reçu des chefs d'entreprise qui ont un projet d'installation dans des locaux, 4 entreprises, avec une qui, en un an, a déjà créé 15 emplois. Donc tout ça contribue tout doucement. On le fait sans tambour ni trompette, mais on le fait, contribue tout doucement à l'amélioration de la dynamique économique de notre territoire. Alors, on peut parler de la diminution de population. Ah oui, la diminution de population, c'est vrai, sur l'ensemble des villes moyennes, hors de l'attractivité, je le disais tout à l'heure, des grandes métropoles, oui, la diminution de population. Quand je regarde les diminutions de population à Pau, à Lourdes ou ailleurs, à Tarbes, bien sûr qu'on est en négatif. Mais quand on regarde l'évolution des populations à l'échelle, au périmètre un peu plus large de l'agglomération, on voit qu'il y a des transferts qui se font des villes-centres de Lourdes, de Tarbes ou de Pau sur les communes périphériques. D'abord parce qu'à Tarbes, on n'a pas de terrain. À Lourdes, je ne sais pas, on n'a plus de terrain pour construire. Qu'aujourd'hui, il y a un nouveau mode d'habitat qui est choisi par les gens, on préfère l'habitat horizontal à l'habitat vertical, et donc il faut des terrains pour construire, etc. Donc, nous allons poursuivre avec ce concours de start-up en 2018. Nous allons lancer le projet de la Technopole que nous avons prévu de créer, c'est lancé, c'est dans les tuyaux. Le site internet dédié à l'agglomération sera opérationnel. Je cherche Renaud, où il est Renaud, Renaud, Julie et Monsieur Laïre Cassou. Je voudrais vous féliciter pour le remarquable travail que vous faites. Je sais que vous avez beaucoup de travail. Le site internet devrait être opérationnel mi-février. Et après, on lancera le site internet du développement économique, en lien évidemment avec le site principal. Nous avons lancé le recrutement d'un chargé de mission pour prendre en main le marketing territorial et l'animation des filières. Donc, on a eu une réunion du jury cette semaine. Il y a deux personnes qui ont été présélectionnées. Nous allons les revoir parce que ce sont deux personnes qui sont totalement différentes mais avec de grandes compétences et le choix est difficile. Mais sachez que d'ici 2-3 mois, il y aura un responsable ou une responsable du marketing territorial qui va venir consolider, conforter notre équipe développement économique. Le diagnostic du projet alimentaire territorial, chère Ginette, ça avance et je te remercie pour ton implication passionnelle sur tout ce qui concerne ce sujet. Nous allons éditer un guide sur l'entrepreneuriat étudiant. Là aussi, nous allons organiser prochainement une réunion avec les étudiants. Il y en a 24 qui sont déjà inscrits sur la création d'entreprise, l'étudiant et la création d'entreprise. Derrière ces étudiants, futurs ingénieurs, il y a des, vraisemblablement des créations d'entreprises potentielles. On va engager la signalétique et des zones d'activité, etc., etc. Il se fait le travail dans chaque commission. J'ai voulu parler de ce développement économique parce que c'est ce qui nous tient à cœur particulièrement. Rassurez-vous, je vais terminer. Je voudrais vous dire que ce qui essaie de nous animer, nous, les élus, et qui doit nous animer tous, c'est le bon sens. Au-delà de toute autre considération. Le bon sens, c'est on sait ce qu'il faut qu'on fasse pour dynamiser notre territoire. On sait ce qu'il faut faire pour faire fonctionner les services et faire en sorte que les projets qu'on présente se réalisent. Et c'est dans le cadre de ce bon sens qu'on doit se parler et accepter les amendements qui ne manqueront pas de nous être proposés. Je l'ai dit, on se découvre, on se parle, on s'apprécie. Et on est surtout unis par la même passion, le développement de notre territoire. Je terminerai, avant de vous souhaiter des vœux personnels, par une phrase de Charles Péguy. Charles Péguy disait « J'ai rencontré sur un chantier deux ouvriers qui étaient en train de casser des pierres. Je demande à un « Qu'est-ce que vous faites ?» Et il me dit « Vous voyez, je casse les pierres. » Et à l'autre « Qu'est-ce que vous faites ?»« Moi, monsieur, je construis une cathédrale. » Je souhaiterais, mes chers amis, que nous ne soyons pas des casseurs de pierres, mais des constructeurs de cathédrales. Construisons notre cathédrale, celle de l'agglomération qui nous réunit et que nous aimons. Merci. Je vous souhaite à toutes et à chacun mes vœux les meilleurs pour cette année. Des vœux personnels, des vœux de réussite professionnelle, des vœux de réussite familiale et surtout des vœux de bonne santé. Nous avons vu que la santé est la chose la plus importante. Nous avons perdu des êtres chers cette année. Et nous savons qu'il nous manque des personnes ici, auxquelles on pense tout le temps, souvent. Il y a deux choses qui sont importantes dans la vie, la santé et le bonheur. Même si la déclinaison du bonheur se fait différemment selon les personnes. Et ce sont deux éléments fondamentaux dont on apprécie l'importance quand on les a perdus. Je souhaite que vous conserviez la santé et le bonheur sur tous les plans. Merci. Bonne année à tous.